Alors, je vous précise, donc, l'an dernier, c'était la devise, là, c'est l'hymne, il reste le drapeau, et en fait, tout ça, ça vient d'un livre qui vient juste de sortir, qui porte sur les trois symboles constitutionnels de la France, le drapeau, l'hymne et la devise. Enfin, les symboles, ils sont constitutionnalisés depuis 1946 et 1958, donc sous la 4e et la 5e République, mais bien sûr, ce sont des symboles qui ont été créés bien avant cette constitutionnalisation. Donc, ce livre porte sur la période 1789 jusqu'à nos jours, en réalité. Si j'ai fait ce livre, c'est qu'il existe beaucoup d'ouvrages consacrés au drapeau, des ouvrages consacrés à la Marseillaise, notamment un très grand et très beau livre qui est quasiment un livre d'art de Frédéric Robert sur la Marseillaise, avec des dizaines et des dizaines d'illustrations. Il existe des livres sur la devise, mais dans tous ces ouvrages, chacun des symboles est traité différemment. Or, ce qui me semblait intéressant, c'est de voir leur vie commune, de voir à quelle période ils naissent, en quelques années, ils naissent tous les trois, et puis après, leur vie est associée, ou au contraire, elle se dissocie parce que tel symbole devient séditieux. Le symbole qui a duré le plus longtemps, c'est le drapeau, parce que depuis 1830, il n'a jamais été supprimé. Alors que la Marseillaise était séditieuse sous le Second Empire, que la devise était séditieuse aussi sous le Second Empire, enfin, n'existait pas. Donc, c'est des durées de vie inégales, avec des moments de rupture et de retrouvailles, si je puis dire. Et ce qui me semblait intéressant, c'était de voir comment tout ça s'articulait ou au contraire se désarticulait. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une première période qui couvre l'histoire de la Marseillaise de 1792 à 1914. Donc, vous le savez tous, en 1792, la France déclare la guerre à l'Empire d'Autriche, le 20 avril 1792 exactement. Et à ce moment-là, le maire de Strasbourg, qui s'appelle Friedrich Dietrich, demande au capitaine, au jeune capitaine du génie Rouget de Lille, de composer un hymne patriotique qui est plus de solennité et plus d'allure que le Saïra ou que la Carmagnole. Friedrich d'Autriche avait un salon où il recevait des commensaux régulièrement, parmi eux Rouget de Lille. Rouget de Lille avait déjà composé des poèmes, des chansonnettes, d'où la demande que lui adresse le maire de Strasbourg. Rouget de Lille est transporté par cette demande, il passe une nuit fiévreuse, et dans la nuit qui suit cette demande, il compose cette Marseillaise qu'il apporte dès le lendemain au maire de Strasbourg, et la Marseillaise est chantée dans le salon. Alors là, c'est une sorte de légende qui veut que Rouget de Lille lui-même ait interprété son chant de guerre, c'est le titre primitif, hein, chant de guerre pour l'armée du Rhin, dans le salon. En réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce qu'on a le détail précis du déroulement de la soirée grâce à Madame Dietrich, qui la relate à son frère. En réalité, Madame Dietrich commence par orchestrer la Marseillaise, parce que Rouget de Lille n'était pas un beau musicien, il ne connaissait pas l'orchestration. C'est donc Madame Dietrich, qui est ici au clavecin, qui l'harmonise et l'orchestre, et puis c'est le maire lui-même qui l'a chanté. Or là, on a un tableau tardif par rapport aux faits, c'est le tableau d'Isidore Pils, P-I-L-S, qui date de 1848. C'est un tableau qui appartient au Louvre, mais qui est déposé au musée historique de Strasbourg. Et comme Lamartine, en 1847, a également raconter que Rouget de Lille lui-même avait chanté la Marseillaise dans le salon du maire, eh bien c'est cette image qui a été conservée mais qui ne correspond pas à la réalité. Alors très vite, ce chant de guerre pour l'armée du Rhin est interprété par des soldats à Strasbourg dès le 29 avril à l'occasion d'une parade militaire. Et ce chant de guerre fait une très forte impression sur les soldats qui disent « c'est un air à moustache ». Autrement dit, un air très viril, ça sent son homme. Et le problème, c'est de prouver que c'est bien Rouget de Lisle qui a composé cet hymne. Parce qu'il se trouve que la première édition, qui est une édition de la partition, une édition strasbourgeoise, ne porte pas le nom de Rouget et le nom n'est pas non plus marqué sur les premières reproductions dans la presse. Ce qui fait qu'à diverses reprises, on a dénié la paternité à Rouget de Lisle, qui ne fait aucun doute, hein, d'après la correspondance de Madame Dietrich elle-même. Donc on a dénié la paternité de Rouget de Lisle pour les paroles et pour les textes. Alors, en ce qui concerne les paroles, voilà le problème. C'est que Rouget de Lisle appartenait aux enfants de la patrie, c'était un bataillon, les enfants, il était capitaine de génie, hein, donc bataillon des enfants de la patrie. Et ce bataillon de la patrie était en contact direct avec tout ce qui concernait les affaires de la guerre et de l'armée. Et tous les membres de ce bataillon connaissaient forcément toutes les affiches patriotiques qui étaient collées dans les rues de Strasbourg et où on voyait des expressions telles que « aux armes citoyens »,« l'étendard de la guerre est déployé »,« il faut combattre, vaincre ou mourir », bref, toutes sortes d'expressions guerrières qui se trouvent peu ou prou dans le champ de guerre de Rouget de Lisle. Alors, pour un musicologue, plus exactement un historien de la musique comme Robert Bressy, eh bien, Rouget de Lisle avait piqué à droite et gauche des expressions qu'il avait associées pour composer ses vers. Mais Michel Vauvel, qui a écrit un article sur la Marseillaise dans les lieux de mémoire de Pierre Nora, a une autre opinion. Il dit: Rouget de Lisle a exprimé les sentiments qui agitaient alors tous les cœurs avec des mots qui étaient sur toutes les lèvres sans que son mérite en soit diminué. Et c'est vrai qu'il y a une sorte finalement de composition collective des mots, mais ça n'enlève rien à la force des vers de Rouget de Lisle. Alors la question de la musique est plus problématique parce que, comme je vous l'ai dit, Rouget de Lisle n'avait pas de véritable formation musicale. Et on a cherché la paternité du chant de guerre auprès de divers autres musiciens, auprès d'André Grétry, qui a composé des chants révolutionnaires, mais Grétry a démenti, a dit qu'il n'était absolument pas l'auteur de cet air. Et on a souligné les ressemblances du chant de guerre avec des airs de Nicolas-Marie d'Alérac, avec des airs de Jean-Baptiste Lucien Grison, qui était un maître de chœur de la cathédrale d'Amiens, avec un autre Kapellmeister qui s'appelait Holzmann. On a également souligné des ressemblances avec le concerto, à certains moments, avec le concerto numéro 25 en ut K503 de Mozart, qu'Ignaz Pleyel serait venu jouer à Strasbourg, et donc que Rouget de Lisle aurait pu entendre. Et il se trouve par ailleurs que les descendantes d'Ignaz Pleyel ont revendiqué la paternité de la musique de la Marseillaise pour leur père. Mais un musicologue qui s'appelle François Chaillet, dans les années 1960, a décortiqué tout cela de manière extrêmement précise et conclut que on peut retrouver des assonances, des ressemblances, mais comme ça existe entre beaucoup d'airs, mais qu'il n'y a pas de problème, que le véritable auteur de la musique de base, hein, après harmonisation, orchestration, etc., est bien de Rouget de Lisle. Donc, cette Marseillaise, elle est à Strasbourg, elle naît à Strasbourg. Comment va-t-elle se répandre? Alors, on sait qu'elle a été portée à la connaissance des populations du Midi, soit par des journaux, puisque je vous ai dit, cette Marseillaise, ce chant du Rhin, avait été reproduit dans des journaux, peut-être par un commis voyageur, on ne sait pas exactement comment elle a voyagé. Tout ce qu'on sait, c'est que le 22 juin 1792, lors d'un banquet organisé à Marseille par le Club des Amis de la Constitution, un jeune médecin qui s'appelait François Mireur et qui venait de Montpellier a chanté cette chanson. Donc le chant était d'abord arrivé à Montpellier, il a été chanté à Marseille par ce jeune montpelliérain médecin. Tous les Marseillais l'ont appris. Et lorsqu'un bataillon de volontaires est remonté à Paris pour s'engager au moment du fameux engagement des volontaires, eh bien, ils sont tous montés en chantant. Il y avait des volontaires du département de l'Hérault, des volontaires du département des Bouches-du-Rhône, des Montpelliérains, des Marseillais, mais on a retenu que le nom des Marseillais, ce qui est très injuste pour les gens de Montpellier, d'où la chose était partie. Ils étaient 500 hommes à remonter comme ça depuis Marseille jusqu'à Paris. Donc on a des témoignages sur leur montée. Ils étaient à chaque fois qu'ils chantaient le refrain, ils agitaient leur chapeau, ils agitaient leur sabre et ils criaient de toute la force de leur voix aux armes citoyens avec une véhémence qui faisait passer un frisson sur les bonnes gens du Dauphiné, du Lyonnais et de la Bourgogne. Ils arrivent à Paris le 10 juillet où la Marseillaise était en fait déjà arrivée et connue, mais ils lui ont donné une impulsion définitive et à partir de ce moment-là, le chant de guerre devient l'hymne des Marseillais ou l'air des Marseillais. On ne dira, écrit un musicologue allemand, on ne dira la Marseillaise réellement qu'à partir de 1830. On trouve parfois ce titre avant, mais c'est réellement à partir de 1830 qu'on dit la Marseillaise. Alors, cette Marseillaise se met à être chantée partout, dans les cafés, dans les théâtres, à l'Opéra de Paris, où il y a, alors je vous le cite parce qu'on a toute une série ou de barytons ou de cantatrices qui chantent la Marseillaise, ou sur la scène d'un théâtre ou sur la scène de l'opéra. Et bizarrement, je ne trouve des reproductions que pour les chanteuses et jamais pour les hommes qui l'ont chanté. En voilà un. Alors, c'est pas François Lay, c'est un autre qui s'appelle Simon Chenard. Donc là, avec l'étendard tricolore dont vous voyez que les bandes sont encore horizontales et pas encore verticales. Bon, et puis donc, il y a tous les volontaires qui s'engagent pour défendre la patrie en danger, qui signent aux accents de la Marseillaise. Alors, il faut ajouter qu'à l'époque, donc 92-93, on aurait aussi entendu chanter ou jouer la Marseillaise au pied des échafauds. Certains la mentionnent pour l'exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793, pour l'exécution des Carmélites de Compiègne, le 17 juillet 1794, mais les récits là-dessus sont très divergents, puisque pour l'exécution de Louis XVI, on a au contraire des récits qui parlent d'un silence absolument pesant qui s'était abattu sur la place. Alors, par ailleurs, donc, un chant qui se chante, un chant civil, on va dire profane, qui se chante dans les cabarets, les théâtres, etc. Un chant révolutionnaire avec éventuellement ses interprétations au pied de l'échafaud, puis surtout un chant militaire, bien évidemment, puisque la Marseillaise était faite pour ça. Alors pendant toutes les guerres de la Révolution, cette Marseillaise est chantée. Bon, on a un tas d'exemples, j'en ai pris quelques-uns. Le général Dumouriez encourageait régulièrement les troupes en leur faisant chanter le nouvel hymne, « Serrez vos bataillons, baissez vos baïonnettes, entonnez l'hymne des Marseillais et vous vaincrez. » Et on dit qu'à Gemapp, alors que c'est une citation sans bouche à feu des canons, donc tonnait à la fois, leur vacarme fut couvert par un bruit extraordinaire, celui de 40 000 hommes chantant « Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves vengeurs, liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. » Alors, né sous la, j'avance un petit peu dans le temps, né sous la législative, donc en 92, l'hymne des Marseillais fut adopté par la Convention, Convention montagnarde, puis Convention thermitorienne. Donc la Convention montagnarde, tout d'abord, lui donna sa pleine portée de chant tout à la fois guerrier, patriotique et révolutionnaire. Donc, après la libération de la Savoie, le 28 septembre 1792, les Français s'installent. Donc, la Convention décréta qu'une fête serait célébrée dans toute la République et que l'hymne des Marseillais serait solennellement chanté sur la place de la Révolution. Donc, vous voyez, pour la première fois, on a une grande fête avec l'ordre donné de chanter l'hymne des Marseillaises dans une fête à travers toute la République. Alors c'est là que Simon Chenard, chanteur de l'opéra, l'a interprété. Et c'est à l'occasion de cette fête, donc suivant la libération de la Savoie, qu'on a entendu pour la première fois le septième couplet, dit couplet des enfants, nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus, nous y trouverons leur poussière, etc., etc., dont la paternité est toujours disputée entre deux auteurs, un abbé jureur qui s'appelait Antoine Pessonneau et un écrivain Louis-Français Dubois. On n'a pas de preuve formelle, les uns tiennent pour Pessonneau, les autres pour Dubois, mais probablement on ne pourra jamais trancher. Le 24 novembre 1793, le comité de salut public publia un arrêté ordonnant que dans tous les spectacles de la République, l'hymne de la liberté, c'est aussi le nom qu'on donne à la Marseillaise, fut chanté régulièrement tous les décadis, ce jour qui remplace le dimanche, donc trois fois dans le mois, et chaque fois que le public leur demandera. Or, le public le demanda souvent, donc on a beaucoup entendu la Marseillaise. L'hymne entonné était entonné également dans les banquets patriotiques, dans les cafés, dans les cabarets, et il était souvent désigné comme l'air chéri des Français. L'air chéri des Français, mais il faut ajouter que d'autres airs bénéficiaient de cette appellation d'air chéri, notamment le Saïra. Après le Nef Thermidor, en dépit de la réaction thermidorienne, qui vit un grand engouement pour un autre chant, s'intitule « Le réveil du peuple », contre toute attente, souligne Frédéric Robert, la Convention donc accorda à la Marseillaise une très grande importance à l'occasion du 26 Messidor en 3, c'est-à-dire le 14 juillet 1795. La veille, le 25 Messidor, à l'ouverture de la séance, deux députés prennent la parole et parle en faveur de l'hymne des Marseillais. Alors là, je vais vous lire un petit passage un peu long pour la raison suivante. C'est que dans tous les ouvrages sur la Marseillaise, ou dans tous les petits discours sur des sites internet retraçant rapidement l'histoire de la Marseillaise, vous allez voir que le décret du 26 Messidor en 3 fait de la Marseillaise un hymne national. Et cette expression va revenir en 1878 et 1879, comme nous le verrons. Donc, je vous cite d'abord le texte d'un député, et puis ensuite, nous verrons ce décret. Donc, un député qui s'appelait Jean de Brie demande que l'on rendît à l'esprit national cette énergie, cette chaleur qu'il avait au beau jour de la Révolution. Il proposa que l'hymne à jamais célèbre des Marseillais, cet hymne qui nous fit gagner tant de batailles, fut consigné tout entier dans le procès-verbal d'aujourd'hui, et que le comité militaire donna des ordres pour que cette air fût joué chaque jour à la garde montante. La proposition est adoptée au milieu de bravos, de cris « Vive la République ». On interprète ensuite d'autres chansons, le Saïra, le chant du départ, qui avait également un grand succès à l'époque, Veillons au salut de l'Empire, puis un chœur composé par Gossec sur des paroles de Voltaire. Puis l'Institut national de musique, ancêtre du conservatoire, interprète la Marseillaise, et ensuite est voté le décret correspondant à la demande de Jean de Brie. Alors, je vous lis le texte de ce décret. La Convention nationale, voulant, au retour de la première époque de la Révolution française, entretenir l'énergie des vrais républicains, en proclamant solennellement les principes sacrés qui ont renversé les Bastilles le 14 juillet et la royauté le 10 août, décrète ce qui suit. Article 1er. L'hymne patriotique, intitulé « L'hymne des Marseillais », composé par le citoyen Rouget de Lisle, et « Le cœur à la liberté », paroles de Voltaire, musique de Gossec, exécuté aujourd'hui, anniversaire du 14 juillet dans la salle de ses séances, seront insérés en entier au bulletin. Vous voyez, il n'y a pas seulement la Marseillaise, il y a aussi l'hymne à le cœur à la liberté de Voltaire Gossec. Article 2. Les airs et chants civiques qui ont contribué au succès de la Révolution seront exécutés par les corps de musique des gardes nationales et des troupes de ligne. Le comité militaire est chargé de les faire exécuter chaque jour à la garde montante du Palais national. Article 1, il y a deux airs. Article 2, il y a tous les airs et chants civiques. Et nulle part, vous n'avez l'expression « hymne national » ou « air national ». Et malgré tout, tout le monde s'obstine à écrire que le décret du 26 Messidor en 3 fait de la Marseillaise l'hymne national. Mais je ne me fais pas d'illusions, les historiens ont l'habitude de cracher dans des violons, et bien que j'ai écrit dans ce livre que non, le décret du 26 Messidor en 3 ne dit pas ça, on continuera de l'écrire. Donc je voulais faire un point là-dessus. Alors, la Marseillaise fut encore chantée ou interprétée sous le Directoire. Les spectateurs la réclamaient dans les théâtres. Et le 4 janvier 1796, le Directoire prit un arrêté obligeant tous les directeurs, entrepreneurs et propriétaires de spectacles de Paris de faire jouer chaque jour par leur orchestre, avant la levée de la toile, les airs chéris des Républicains. Là encore, c'est les airs chéris, hein, tels que la Marseillaise, Ça ira, Veillons au salut de l'Empire et le chant du départ. Et dans l'intervalle de deux pièces, parce que souvent on jouait deux pièces l'une après l'autre, dans l'intervalle des deux pièces, on chantera toujours l'hymne des Marseillais ou quelque autre chanson patriotique. Donc en fait, l'hymne, la Marseillaise, était importante, mais elle était au premier plan, mais elle n'était pas seule au premier plan. Ensuite, on continue d'avancer dans le temps, la Marseillaise commence à s'effacer à partir du consulat. Pourquoi ? Parce que Bonaparte n'aimait pas la Marseillaise. Il lui trouvait des airs trop jacobins, donc il ne la rejeta pas complètement, mais progressivement, elle s'éteignit. D'après Frédéric Robert, la Marseillaise aurait été jouée publiquement en 1801. Et par ailleurs, Bonaparte, en tant que chef de guerre, n'aimait pas les chants, enfin en l'occurrence chants patriotiques, il voulait les instruments de musique. On raconte qu'à un moment des opérations d'Italie, alors qu'un officier allait faire chanter ou jouer la Marseillaise, parce qu'on ne sait jamais très bien s'il s'agit de la musique ou s'il s'agit du chant, bref, un officier avait commandé la Marseillaise, Bonaparte se met en colère, lui dit « Arrêtez immédiatement, je veux la charge et rien que la charge », c'est-à-dire les roulements de tambour pour faire avancer les soldats. Bon, on continue d'avancer, première chute de l'Empire, installation de Louis XVIII, première restauration, bien évidemment, on n'allait pas tolérer la Marseillaise, puis les 100 jours, donc la Marseillaise revient brièvement pendant les 100 jours et elle est enfin réduite complètement au silence à partir de 1815. Donc là, j'ouvre une deuxième période, 1815-1879. Donc la Marseillaise est interdite et considérée comme un chant séditieux. Elle est interdite pendant toute la Restauration et la Restauration adopte un autre chant officiel. C'est une vieille chanson qui s'appelle « Vive Henri IV, vive ce roi vaillant » dont les paroles sont modifiées pour s'appliquer à l'actualité. Mais toutefois, elle est maintenue dans les mémoires et elle est chantée par des opposants, par des libéraux ou par des républicains qui pouvaient être poursuivis pour ce fait en vertu de la loi du 17 mai 1819. Alors là, je vous cite une anecdote un petit peu amusante. Trois jeunes gens l'ayant chanté furent poursuivis. Leur avocat, un avocat connu, maître Adolphe Crémieux, commence par bâtir sa plaidoirie en disant « Mais enfin, on vient ici juger trois jeunes gens qui ont chanté la Marseillaise, et il exhibe un livre qui s'appelle Couronne poétique. À mon avis, c'était un livre édité et sous le manteau et qui circulait de manière clandestine, comme beaucoup de livres sous la Restauration, notamment des livres de Voltaire. Et il dit, voilà, ce livre, il circule partout, tout le monde peut lire la Marseillaise, et puis ces jeunes gens qui l'ont chanté sont condamnés. Et puis, il dit, en outre, je constate que les paroles de la Marseillaise ne figurent pas dans l'acte d'accusation. Comment est-ce qu'on peut juger quelqu'un sans que le juré connaisse exactement ce qui leur est reproché? Donc, il commence par commenter la Marseillaise. Donc, il commente le premier couplet, et là, le président de la cour lui dit que ce qu'il est en train de faire renouvelle le délit de l'accusation et qu'on ne peut pas lui laisser dire ce qu'on est précisément en train de critiquer chez les accusés. Il lui demande de se taire. Mais là, chose extraordinaire, un assesseur du tribunal l'interrompt et dit « Je vous demande pardon, monsieur le président, je puis être appelé à juger si le jury rendait son verdict à la simple majorité ?» Là, il faudrait, c'est en fonction du code de la justice, il faudrait que le vote soit repris avec les assesseurs. Je puis être admis à juger. Or, je ne me souviens plus de la Marseillaise, donc je demande à la connaître et donc je demande à ce qu'on continue de la présenter. Je suppose qu'il n'a pas fait une longue carrière dans la justice. Celui-là, ça a provoqué une grosse sensation d'insistance. Donc Crémieux continue sa lecture, continue son commentaire et il arrive au sixième couplet, « Amour sacré de la patrie ». J'aurai l'occasion de vous reparler de ce couplet « Amour sacré de la patrie » et aujourd'hui, et lorsque on fera la suite des opérations dans une deuxième séance. Donc, il commente ce couplet qui est le sixième, « Amour sacré de la patrie », qui provoque un mouvement au sein du jury. Alors, Crémieux, bien sûr, se rend compte de l'émotion que ça soulève, et voici ce qu'il dit. « Oui, messieurs, oui, vous le sentez, vous le comprenez comme moi, ce cri d'un cœur entraîné par une brûlante aspiration. » Aux armes pour la patrie, aux armes pour la liberté chérie. Et voilà l'hymne que l'on prohibe comme un excitant à la sédition. Et ceux qui, dans un repas qu'animait la gaieté, mêlant à leur joie des souvenirs patriotiques, ont dit à l'écho de la salle où ils étaient réunis, les trois jeunes gens qui avaient chanté, où ils étaient réunis, ont dit cette Marseillaise que vous connaissez maintenant, ils sont coupables? Ils ont mérité les peines de la loi? Non, non! Plus de proscription contre ce chant immortel, berceau nos enfants avec la Marseillaise, apprenons-leur ainsi l'horreur de l'étranger envahissant notre territoire, la bravoure indomptable contre l'ennemi, l'amour sacré de la patrie, le culte saint de la liberté. Et les trois accusés furent acquittés. Voilà, c'est très bien. Il y a d'autres affaires de une personne poursuivie pour avoir chanté la Marseillaise. Je vous cite un autre exemple qui est à l'extrême fin de la séparation. C'est le cas d'un jeune soldat, enfin un jeune élève de l'école polytechnique, donc qui avait un statut militaire, qui s'appelait Adolphe Charras, qui chante la Marseillaise dans ce qu'on appelait un repas de corps, où donc tous les élèves étaient réunis, l'affaire se sait et il est exclu pour avoir chanté la Marseillaise. Il est réintégré après la Révolution de 1830 et j'ai pris ce cas d'Adolphe Charras parce qu'il est très connu sous le Second Empire pour avoir été un opposant très féroce au coup d'État du 2 décembre 1851 et être resté un opposant durant tout le Second Empire. Donc, je viens de vous parler de la Révolution de 1830, c'est qu'on arrive à la monarchie de Juillet. La Marseillaise réapparaît lors des Trois Glorieuses, le 3 août à l'Opéra, le public la demande, et le ténor Adolphe Nourry vint la chanter, son drapeau à la main, avec tout l'appareil des chœurs et de l'orchestre. Mais comme je vous l'ai dit, autant je trouve des gravures de chanteuses en train de chanter la Marseillaise, autant les ténors ou les barytons qui la chantent, pas d'illustration les concernant. Alors quelques jours plus tard, la Marseillaise donna lieu à une étonnante scène parisienne grâce à Berlioz. Berlioz venait d'arranger la Marseillaise. Vous savez qu'il y a une version berliozienne de la Marseillaise. Il venait de l'arranger pour grand orchestre, double chœur. Et à la place des mots ténor et basse, il avait écrit sur la partition « Tout ce qui a une voix, un cœur et du sang dans les veines ». Et il se trouve que pendant ces journées révolutionnaires, donc pendant ces trois glorieuses, il rencontre au Palais Royal un groupe de jeunes gens qui étaient en train de chanter. Ils s'intègrent à leur groupe et puis tous se transportent dans la galerie Colbert, par derrière l'actuelle, enfin l'ancienne bibliothèque nationale. Et là, ils se mettent à chanter la Marseillaise. Il y a une foule qui est autour, mais les gens écoutent sans chanter. Berlioz pense à ce qu'il a écrit sur sa partition, tout ce qui a une voix, un cœur, du sang dans les veines. Le silence de la foule l'agace et il leur crie « Sacre Dieu, chantez donc !» Et tout le monde se met à chanter la Marseillaise, ce qui est intéressant. Ça veut dire que les gens la savaient, alors qu'elle avait été interdite pendant toute la Restauration. C'est ça qui est intéressant. C'est cette mémoire de la Marseillaise qui circulait. On ne sait pas trop bien comment. On sait qu'elle circulait dans des sociétés secrètes, dans des milieux d'opposants. Mais pour qu'une foule la chante, il fallait bien quand même qu'elle ait été sue encore plus largement. Alors, Berlioz écrit dans ses mémoires « Et le peuple alors de lancer son « aux armes citoyens » avec l'ensemble et l'énergie d'un cœur exercé. » Il faut se figurer que la galerie qui aboutissait à la rue Vivienne était pleine, que celle qui donne dans la rue Neuve des Petits Champs était pleine, que la rotonde du milieu était pleine, que ces 4 ou 5 000 voix étaient entassées dans un lieu sonore, fermé à droite et à gauche par les cloisons en planches des boutiques, en haut par des vitraux, en bas par des dalles retentissantes. Il faut penser en outre que la plupart des chanteurs, hommes, femmes et enfants, donc il y avait des femmes et des enfants dans cette foule, palpitaient encore de l'émotion du combat de la veille, puisqu'on est dans les Trois Glorieuses, et l'on imaginera peut-être quel fut l'effet de son foudroyant refrain. « Pour moi, sans métaphore, je tombais à terre. » Bon, et notre petite troupe, épouvantée de l'explosion, fut frappée d'un mutisme absolu, comme les oiseaux après un éclat du tonnerre. Alors, à ce moment-là, donc au tout début de la Monarchie de Juillet, dans mon livre, il y a un tas d'exemples, hein, des gens, comment les gens réagissent à la vue du drapeau, à la vue de la Marseillaise, etc., notamment Alexandre Dumas. Alors, donc, la Marseillaise est admise au niveau du plus haut sommet de l'État, et le 29 juillet 1831, lors de la cérémonie organisée au Panthéon, qui redevient à ce moment-là le temple des grands hommes, eh bien, la Marseillaise est chantée à deux reprises par un chœur de 500 musiciens. Donc là, quelque chose encore d'énorme. Mais très vite, elle redevient un chant séditieux parce que dès les premières années, en fait, dès 1832, la monarchie est partagée entre les partisans du mouvement et ceux qu'on appelle la résistance, qui ne veulent pas bouger, qui résistent à l'avancée. Très vite, il y a un conflit qui s'introduit entre ceux qui veulent plus de réformes, et ceux qui se cramponnent. Là, ce qu'on a fait, ça suffit, maintenant on arrête. La Marseillaise, elle passe du côté des gens qui veulent continuer d'avoir plus de réformes, et dans ces conditions, elle devient séditieuse. Mais elle continue là encore d'exister, comme antérieurement, dans des sociétés secrètes, dans des groupes d'opposants, et on a plusieurs témoignages très émouvants de gens qui la chantent dans les prisons. Alors j'ai pris ici un exemple, j'ai des exemples de Sainte-Pélagie, de la forteresse du Mont-Saint-Michel, et de la forteresse de Doullens, dans la Somme, où les détenus politiques, comme à Sainte-Pélagie d'ailleurs, les détenus politiques avaient le droit à certains égards, et le 14 juillet et le 10 août, on leur laissait organiser des banquets fraternels, au cours desquels la Marseillaise et le chant du départ étaient de rigueur, et qui se terminaient par une sorte de prière. Le mot est utilisé, hein. Ces journées se terminaient par une sorte de prière, et voilà la citation. « À 9 heures du soir, au son de la cloche de rentrée, donc où chacun devait regagner sa cellule, tous en rond, au milieu de la cour, nous en tenions tête découverte et genoux en terre, la dernière strophe de la Marseillaise, Amour sacré de la patrie. Vous voyez encore cette strophe, Amour sacré de la patrie, qui est une strophe tout à fait importante, que Louise Michel faisait chanter à ses élèves, que les partisans dans les années 1940 font chanter. Et je la cite de manière toute particulière, bon, elle est importante en soi, mais en outre, il se trouve que lorsque le maréchal Pétain était en voyage, comme la Marseillaise, contrairement à une idée reçue, n'avait pas du tout été supprimée et qu'elle était chantée encore plus souvent que Maréchal nous voilà, sauf dans les écoles où on faisait chanter aux enfants Maréchal nous voilà, le couplet de la Marseillaise qui était préférentiellement chanté en présence du maréchal Pétain, c'était « Amour sacré de la patrie ». Donc il y a des auteurs qui disent « c'est une version pétainiste de la Marseillaise ». Pour moi, c'est un non-sens, puisque tout au long du XIXe siècle, on voit précisément des républicains qui chantent « Amour sacré de la patrie » et que par ailleurs, les partisans chantaient aussi « Amour sacré de la patrie ». Alors, à cette époque, sous la monarchie de Juillet, la Marseillaise reste par ailleurs encore un chant militaire. S'il faut en croire le témoignage d'un lieutenant envoyé en Algérie, au moment de s'embarquer à Marseille, toute la troupe chanta encore « La Parisienne », une chanson créée au début des années 40 et qui, après l'éviction officielle de la Marseillaise, devient le chant officiel de la monarchie de Juillet. Donc, chante encore la Marseillaise, la Parisienne et la Marseillaise à briser les vitres qui entourent le port. Sous le second ministère Thiers, en 1840, il y eut une grave crise diplomatique entre la France et l'Angleterre à propos d'un conflit entre l'Égypte et la Turquie. La France soutenait l'Égypte, l'Angleterre soutenait la Turquie. L'Angleterre, après sa dévie en question du Rhin, parce que les États allemands se mettent du côté de l'Angleterre, donc grave crise diplomatique dans laquelle la France perd la face, puisque le traité de Paris qui est signé à l'époque correspond à la position prise par l'Angleterre. Donc il y a une crise diplomatique qui se traduit par un accès de chauvinisme en France, et à cette occasion-là, de cette crise, la Marseillaise est tolérée dans des manifestations de rue. Et par ailleurs, c'est à ce moment-là que, puisque je vous ai dit que la question d'Orient se prolonge en question du Rhin, il y a un poète allemand qui compose un lied du Rhin qui est très offensant et très agressif contre la France. Et deux poètes français vont répondre à ce lied du Rhin, Lamartine d'une part, Alfred Musset d'autre part. Alfred de Musset répond par « Nous l'avons bu, votre Rhin, il a tenu dans notre verre, etc. etc. » Et Lamartine répond par un poème qui a reçu le nom de « Marseillaise de la paix », qui date de 1841, qui est un titre extrêmement étonnant parce que en réalité, cette Marseillaise de la paix ne suit absolument pas la structuration de la Marseillaise. C'est pas du tout le même type de vers, le même type de refrain, c'est tout à fait différent. C'est un très très long poème qui n'a pas du tout la même structure. Donc ce titre de Marseillaise de la paix est un petit peu étonnant. Donc on avance, 1848, la Seconde République. Donc comme les journées de juillet 1830, les journées de février 1848 se déroulent aux accents de la Marseillaise, souvent accompagnées par un autre chant, le Chœur des Girondins, qui a été vraiment une scie de l'époque. Le Chœur des Girondins venait d'un ouvrage d'Alexandre Dumas et de son nègre, comme on dit à l'époque, ce qui n'est plus permis maintenant, qui s'appelait Auguste Maquet, et qui était inspiré par l'histoire des Girondins de Lamartine. Dans ce drame, Alexandre Dumas avait écrit Le Chevalier de Maison Rouge. L'année d'après, avec Auguste Maquet, ils en font une pièce de théâtre. Et dans cette pièce de théâtre, on inclut un chœur des Girondins dont le refrain est repiqué, si je puis dire, dans une œuvre de Rouget de Lisle qu'on retrouve ici, qui s'appelait Roland à Roncevaux Et il y avait un chant dans Roland à Roncevaux dont Dumas et Maquet reprennent le refrain. Et le refrain, c'est « Mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie. Mourir pour la patrie, mourir pour la patrie, à chaque fois c'est bis. » C'est une vraie scie. Et ça a été chanté en 1848 à l'égal de la Marseillaise. Le 22 février 1848, par exemple, dans les galeries du Palais Royal, on chante le chœur des Girondins et la Marseillaise, qu'on chante également à Montmartre. Le 23, près de 2000 jeunes gens partent du Quartier Latin et rejoignent des ouvriers au Pont-Neuf. Ça fait plusieurs donc milliers de personnes qui gagnent l'église de la Madeleine, dont ils font le tour en chantant la Marseillaise et le chant des Girondins. Et plusieurs fêtes de la Révolution de 1848, pour la proclamation solennelle de la République, pour une fête célébrée pour les morts des journées de la Révolution, tout ça se passe au son de la Marseillaise et du chœur des Girondins. Et bien sûr, de nouveau, on va retrouver la Marseillaise chantée à l'opéra et sur les scènes de théâtre. Alors, le 6 mars, au Théâtre de la République, qui est le théâtre français, donc la Comédie française, à la fin de la tragédie Horace de Corneille, des spectateurs crièrent « Rachel, la Marseillaise ». C'est une très célèbre tragédienne. Elle incarnait Camille ce jour-là. Et elle répond à la demande du public. Et je cite ici un journal musical de l'époque, Le Ménestrel, 12 mars 1848, qui écrit « Rien n'était saisissant comme le dernier couplet de l'hymne des Marseillais, récité par Rachel à genoux, vêtue de l'austère tunique romaine et enveloppée du drapeau tricolore. » Enfin, elle n'est pas vraiment enveloppée dedans. L'effet seul de cette strophe suffirait à faire une révolution si elle n'était déjà faite. Alors à l'époque, quand on dit le dernier couplet de la Marseillaise, on ne sait jamais très bien s'il s'agit du sixième ou du septième, parce que le septième a eu un statut bâtard pendant un certain temps. Donc je suppose qu'ici, le dernier couplet, c'est plutôt le sixième, et c'est toujours de nouveau encore amour sacré de la patrie. Puis, dans une république devenant de plus en plus réactionnaire, chanter la Marseillaise exposa à des poursuites, mais avant d'être effacée de nouveau pour de longues années pendant le Second Empire, la Marseillaise retentit dans les colonnes formées pour défendre la République après le coup d'État du 2 décembre 1851. Et là, on va se tourner vers un autre écrivain, Émile Zola, qui décrit dans La Fortune des Rougon le jeune Silvère et sa jeune amoureuse, la jeune Miette, qui vont rejoindre le groupe des insurgés près du village de Plassans, bon, qui est le lieu de l'œuvre de Zola, de La Fortune des Rougon. Et voilà ce qu'écrit Zola. « Tout à coup, une masse noire apparut au coude de la route. La Marseillaise, chantée avec une furie vengeresse, éclata formidable. » Quand les derniers bataillons apparurent, il y eut un éclat assourdissant, la Marseillaise emplit le ciel, comme soufflée par des bouches géantes dans de monstrueuses trompettes qui la jetaient, vibrantes, avec des sécheresses de cuivre à tous les coins de la vallée. Alors, la Marseillaise est interdite, bien sûr, sous le Second Empire, qui, lui, ne reprend pas le chant qu'avait adopté Napoléon, qui était « Veillons au salut de l'Empire », mais une chanson qu'on a cru pendant longtemps composée par la mère de Napoléon III, Hortense de Beauharnais. En réalité, il semble que ce soit pas le cas, et cette chanson, qui est un petit peu étonnante pour un hymne quasi officiel, c'était « Partant pour la Syrie », un beau train, c'est une sorte de bluette un peu ridicule pour devenir un chant officiel. Là encore, elle est chantée par des républicains, par des opposants. Et Louise Michel, toute jeune à l'époque, avait fondé une école privée, laïque, à Audeloncourt, dans la Haute-Marne. Il y avait déjà des écoles, il y avait des écoles laïques qui existaient à cette époque, mais privées, rien à voir avec les écoles communales. Donc elle avait créé une école en janvier 1853, et elle faisait chanter à ses enfants, à ses élèves, la strophe des enfants, nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Tout le monde se mettait à genoux pour la chanter. Une des plus jeunes chantait seule les couplets et en reprenant le chœur, c'est-à-dire le refrain, nous avions souvent, les enfants et moi, des pluies de larmes tombant des yeux. Je dois vous dire qu'elle s'est fait convoquer par le préfet et que ça a été terminé. Alors, la Marseillaise fut aussi chantée dans un contexte guerrier. Lors du départ des troupes pour la guerre d'Italie, en 1859, les gamins de la capitale, rapporte un auteur, Émile de la Baudelière, se plurent à accompagner les soldats à la gare et à porter leurs gibernes. Au moment de leur embarquement dans les trains, ils criaient « Vive la ligne », c'est-à-dire « Vive l'infanterie hein, », la ligne c'est l'infanterie, et chantaient même l'hymne interdit, fait que la Baudelière commenta ainsi « Ah, cette Marseillaise, elle revient toujours, elle est dans la mémoire et dans les moelles de ce peuple. Il peut cesser de la chanter, il ne l'oubliera jamais. À la moindre occasion, la chanson se réveille, et sauf qui peut. » On sait aussi qu'elle a été chantée pendant la guerre de Crimée. Les généraux MacMahon et Pélissier durent la laisser jouer par leurs troupes, donc qui l'ont réclamée, et les généraux n'ont pas pu s'y opposer. Et la prise de Sébastopol se fit aux accents de la Marseillaise. Alors, au moment de la déclaration de guerre à la Prusse, en juillet 1870, il y eut donc un climat propice à la Marseillaise, que le gouvernement toléra, comme ça avait été toléré dans les années 1840 sous la monarchie de Juillet, non seulement toléré, mais même, d'après certains témoignages, instrumentalisé par le gouvernement impérial pour rallier les populations. Alors c'est Pierre Larousse qui écrit dans son grand dictionnaire universel « Le gouvernement chercha à surexciter l'esprit public en l'autorisant dans les concerts, dans les théâtres et dans les rues » et aurait même payé des bandes spéciales pour aller chanter la Marseillaise sur les grands boulevards. Alors cette instrumentalisation de l'hymne suscita la colère dans les milieux républicains de gens qui du coup refusèrent de la chanter après parce qu'ils estimaient qu'elle avait été souillée par cet épisode de juillet 1870. Ça a été le cas par exemple de Jules Vallès, d'un militant blanquiste qui s'appelait Gustave Tridon, mais également de Louise Michel, justement. Alors, dans cet été 1870, ben, comme toujours, on entend la Marseillaise dans les théâtres parisiens. Le 18 juillet, elle est demandée par le public de la Comédie française et elle est chantée par Madame Agar. Alors, Théophile Gautier compara son interprétation à celle de Rachel. Si Madame Rachel avait l'air d'une némésis vengeresse, Madame Agar ressemble à une victoire ouvrant ses ailes d'or. Mais vous voyez, à chaque fois on retrouve le drapeau, comme on l'a retrouvé en 1989 avec Jessie Norman, comme on l'a retrouvé pendant les Jeux Olympiques de Paris avec Axel de Saint-Cyrel. Et puis enfin, on a une autre chanteuse qui s'appelait Teresa, c'était un pseudonyme qui elle chantait dans les cabarets un peu grivois et qui chantait plutôt des airs polissons, mais elle devient patriote et solennelle au moment de la déclaration de guerre et elle la chante à son tour et toujours avec le drapeau et toujours avec l'habit avec du tricolore. Alors après la chute de l'Empire provoquée par la défaite de Sedan, donc Sedan c'est le 2 décembre, chute de l'Empire, proclamation de la République le 4 septembre, la Marseillaise jaillit spontanément au moment de la proclamation de la République. Alors, durant le siège de Paris, elle soutint le courage de la population civile. D'après un Parisien, témoin qui a laissé un journal du siège, c'était un avocat qui s'appelait Henri Dabot, bien, voici ce qu'a écrit Henri Dabot, il vit des femmes faire la queue, et c'était le siège pendant l'automne et l'hiver, qui a été un hiver extrêmement froid. Ça a été une époque absolument épouvantable pour la population parisienne. Donc il vit des femmes faire la queue durant des heures dans l'espoir d'obtenir un peu de charbon. Il écrit « Les malheureuses, elles s'asseyent par terre quand elles sont trop fatiguées. Parfois, pour faire nique au froid et au sommeil, elle chante la Marseillaise, vous voyez, pour se réchauffer et pour sonner du cœur au ventre. Mais jugeant la Marseillaise profanée par les scènes de juillet 1870, des militants républicains et socialistes la rejetèrent, dont Louise Michel, qui écrivit dans ses mémoires « L'Empire l'a profanée, nous autres révoltés, nous ne la disons plus ». La Marseillaise fut cependant l'une des chansons les plus chantées durant la Commune. Les fanfares des bataillons de la garde nationale la jouaient. Madame Agar, qu'on a vue précédemment, l'interpréta à la Comédie française et on l'entendit dans les grands concerts organisés par la commission musicale de la Commune qu'elle accompagna jusqu'à son dernier souffle. Alors la Marseillaise ne pouvait avoir bonne presse sous le gouvernement de Pierre et encore moins sous la République des Ducs et de l'ordre moral. Mais contrairement à ce qui s'était passé sous les deux empires et les deux monarchies constitutionnelles, aucun autre chant ne se substitua à elle. Donc pendant une dizaine d'années, la France fut privée d'hymne national, officiel ou même officieux, si l'on accepte le chant national pour l'exposition, parce qu'il y a une grande exposition universelle en 1878, et à cette occasion, Gounod composa le chant national pour l'exposition, mais c'était uniquement pour le temps de l'exposition. Mais avant même l'ouverture de cette exposition, le 25 janvier, donc 1878, 17 députés républicains déposèrent une proposition de loi ayant pour objet de faire reconnaître à la Marseillaise, conformément au décret du 26 Messidor en 3-14 juillet 1795 qui n'a jamais été aboli, son caractère de chant national français qui, comme vous le savez maintenant, ne figure pas dans le fameux décret. Donc moi j'écris dans mon livre intitulé « Douteux » si l'on tient compte du fait que l'expression de chant national ne figure pas dans ce décret. Alors, ces députés très engagés, comme vous pouvez vous en douter, du côté de la République, si ces députés ont déposé cette proposition de loi, c'est précisément parce que, à cause du manque d'hymne officiel, quand il fallait jouer un hymne officiel pour la France dans telle ou telle circonstance, personne ne savait quoi jouer. D'où des situations absolument aberrantes. Par exemple, en mai 1876, lors d'une fondation de l'hôpital français de Londres, une cantatrice interpréta comme hymne national français une œuvre de Gounod intitulée « Dieu le veut ». Le 17 janvier 1878, à Rome, en présence des officiels français assistant aux funérailles du roi Victor Emmanuel II, la musique italienne, embarrassée pour jouer notre air national, bienvenue, il n'y en avait pas, eh bien, que fait cette musique italienne? Elle joue une marche royale italienne. Bon, ça devenait quand même très gênant. Donc, en outre, il y avait eu un autre incident qui avait poussé ces députés à déposer leur proposition de loi. C'est qu'à Nantes avait été joué un spectacle dans lequel la Marseillaise avait été interprétée, mais au titre d'œuvres incluses dans le spectacle, et un officier avait sifflé la Marseillaise. Donc, ça avait paru intolérable à ces députés républicains et ils voulaient sortir à la fois de ce silence et de ce climat injurieux pour la Marseillaise. Alors ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils déposent leur proposition, ils disent, ils reconnaissent que la Marseillaise est un chant de guerre, que certains vers sont pleins de fureur patriotique et que peut-être il vaudrait mieux un chant plus beau, plus sublime, un chant de paix, de travail, de liberté et de fraternité universelle. Et que peut-être un hymne de cette nature viendrait remplacer la Marseillaise un jour. Mais que ces choses-là peuvent éventuellement se prévoir, mais que ça ne se commande pas. Et donc il faudra attendre que le moment soit venu. Donc en attendant, voilà ce qu'ils disent. La Marseillaise reste donc, messieurs, le chant national de la France républicaine, et c'est pourquoi nous vous prions de consacrer par vos votes la proposition de loi suivante, le chant national français et la Marseillaise. La proposition de loi, comme il se doit, est transmise à la commission qui doit s'en occuper, et cette commission estime qu'aucune suite ne pouvait être donnée à la proposition puisque le décret du 26 Messidor en 3 n'avait pas été abrogé. Comment est-ce qu'on pouvait légiférer alors qu'un décret n'avait pas été abrogé? Toujours ce fichu décret du 26 Messidor. Donc, on en reste là. Et alors là, la suite au prochain numéro, parce que, en fait, là, donc je pensais aller jusqu'en 1914. Eh ben non, je suis arrêtée en 1879. Désolée. Voilà.
Merci beaucoup.